Chers auditeurs, dès qu'il eut terminé la visite des principaux centres urbains de son vaste diocèse, Mgr Loyson se mit en devoir de procéder à son organisation administrative. Ce fut tout d'abord la nomination des vicaires généraux. Selon les directives gouvernementales, un évêque non constitutionnel devait s'entourer de deux vicaires généraux dont l'un était nécessairement un ancien jureur. Un évêque ayant prêté le ou les serments constitutionnels, c'était le cas de Mgr Loyson, devait prendre deux vicaires généraux insermentés. Mgr Loyson choisit donc pour le seconder deux Landais, M. l'abbé Lamarque de l'ancien diocèse de Dax et M. l'abbé Lallemand de l'ancien diocèse d'Aire, tous les deux prêtres réfractaires ayant connu l'exil, pense-t-on, l'un et l'autre fort estimés dans leurs anciens diocèses. Le nouvel évêque va s'entourer également d'autres collaborateurs en les nommant au chapitre. On y trouvera ainsi M. l'abbé d'Alincourt, qui avait eu un rôle important au diocèse de Bayonne tout au long des années difficiles de la Révolution, et M. l'abbé Ducasse, qui avait été vicaire général de Mgr de Noé à Lescar. C'était, écrivait Mgr Loyson à Portalis, ministre des Cultes, les seuls membres du chapitre sur lesquels sa confiance pouvait se reposer, surtout dans les cas d'absence. Les autres, ajoutait-il, ont des dispositions, mais ils doivent se former. Il avait auprès de lui comme secrétaire particulier l'abbé Honner, qu'il avait amené avec lui de son pays natal et qui devait jouer un rôle important dans l'administration du diocèse. La tâche la plus ardue fut, on s'en doute, la création des circonscriptions paroissiales et la nomination de responsables à leur tête. Pour cela, il s'entoura, comme il l'écrivait, d'un conseil sage et éclairé, choisi parmi d'anciens administrateurs, soit laïcs, soit ecclésiastiques, qui connaissaient les localités et les personnes. Car, écrivait-il encore, parlant des anciennes paroisses, il fallait diviser ce qui était uni, unir ce qui était divisé. Et puis, il fallait donner à chaque troupeau un pasteur selon son cœur ou se raidir contre les vœux indiscrets des fidèles qui appelaient des pasteurs qui ne convenaient pas dans l'ordre de leur intérêt spirituel. Le concordat avait prévu que les circonscriptions ecclésiastiques seraient les mêmes que celles de l'administration civile. Celles-ci avaient comme élément de base la justice de paix, c'est-à-dire ce qu'on appellera par la suite le canton. Le chef-lieu de la justice de paix serait une cure, ayant à sa tête un curé, fonctionnaire d'État et donc inamovible. Mais il était prévu que, selon les besoins des fidèles, l'évêque, en accord avec le préfet, pourrait constituer d'autres paroisses qui seraient des succursales et y nommer d'autres prêtres qui en seraient les desservants. Ce nombre de cures, écrivait encore Mgr Loyson, ne laissant pas aux fidèles des secours suffisants pour leurs besoins spirituels, nous avons érigé des succursales dans toutes les communes de justice de paix. Le ministère ecclésiastique y sera exercé par des desservants sous la surveillance des curés et notre autorité. Le diocèse de Bayonne, dans sa partie comprise dans les Basses-Pyrénées, celle qui nous intéresse ici, comptait donc 40 cures, qui deviendront plus tard des doyennés, et 411 succursales, dont le nombre se modifiera au cours du temps, soit en tout 451 paroisses, avec chacune son responsable, curé ou desservant, et pour certaines d'entre elles, avec un ou plusieurs vicaires nommés par l'évêque seul. Selon les directives gouvernementales, les évêques devaient réserver au moins le quart des paroisses aux prêtres juleurs. Portalis donnera cependant des dispenses quand, dans certains cas, le quota ne pourra être atteint, ce qui était le cas du Pays basque où les prêtres jureurs ne constituaient pas le sixième des effectifs disponibles. À la justice de paix de Saint-Jean-Pied-de-Port, 13 prêtres sont nommés à la tête des paroisses. Deux sont des assermentés et tous deux vont retrouver les paroisses qui leur étaient échues sous la Constitution, l'abbé Jasse à Saint-Jean-le-Vieux et l'abbé Granade à Jacsu. Le fameux abbé Marie Toury de Saint-Pé-sur-Nivelle est nommé à son ancienne paroisse, mais il ne pourra pas l'occuper longtemps pour des raisons de santé. Il sera remplacé par l'abbé Duronéa, ancien curé constitutionnel de Sarre. Il semble qu'on ait veillé à ne pas mettre dans la même justice de paix Salvat Mono, nommé à Ainoa, et celui qui avait été l'objet de ses sarcasmes à Bardos, l'abbé Mentaberi, nommé à Lens. On accusera Mgr Loison d'avoir, dans cette répartition des effectifs, favorisé les prêtres réfractaires. Il s'en défendra en rappelant que dans les Basses-Pyrénées, sur 40 cures, 14 avaient été confiées à des prêtres constitutionnels et que sur 400 succursales, ces derniers en avaient obtenu 180. Il n'y aura pas non plus de favoritisme sur le plan géographique et régional. Certes, il a fallu souvent regrouper des petites communes sous la houlette d'un même pasteur, par exemple en Béarn, dans la justice de paix de Limbeil, seules 4 communes ont chacune un desservant. Mais on y compte tout de même, en plus du curé de Limbeil et de son vicaire, 17 prêtres chargés du ministère dans des paroisses faites de plusieurs petites communes regroupées. Dans la justice de paix de Saint-Palais, il y a eu également quelques regroupements, mais 29 prêtres sont à la disposition des fidèles. On reste rêveur devant ces chiffres. Certes, beaucoup de ces prêtres sont âgés, fatigués, usés par les conditions de vie qu'ils ont connues depuis 10 ans. Et puis, maintenant, un certain nombre d'entre eux se retrouvent sans logement et sans ressources. Le 27 mai 1803, Mgr Loison écrit au ministre des Cultes, Portalis, « Plusieurs succursales ont vaqué par mort, un plus grand nombre par des démissions que j'ai été forcé d'accepter à cause de l'étendue des paroisses ou parce qu'on ne leur offre ni logement ni moyen de subsistance. » Ce n'est qu'en 1804 que le gouvernement va octroyer aux desservants un traitement annuel de 500 francs. Le problème qui surtout préoccupe Mgr Loison au sujet du clergé, c'est celui de son unité. On le sent dans l'ordonnance qui accompagne le décret de publication de la nouvelle organisation. « Le premier objet de notre sollicitude pastorale, dit-il, a dû être la réunion, c'est-à-dire l'union, des pasteurs et des brebis. » Et il ajoutait « La foi, fondement de notre espérance, ne peut exister sans l'union. La religion ne reprendra son éclat, elle ne retrouvera son empire et ses droits que quand tous ses ministres marcheront sur la même ligne, sous les mêmes signes de ralliement. la pierre d'achoppement était le serment constitutionnel que beaucoup considéraient comme un acte schismatique et qu'il fallait par conséquent rétracter. Mais les prêtres juifs ne considéraient pas comme une faute le fait d'avoir obéi à la loi. Après des discussions au sommet, le cardinal Caprara se fit plus conciliant et à Bayonne, les prêtres entrant en fonction n'eurent qu'à signer une formule ainsi libellée. Je, sous-signé, déclare que j'adhère au concordat passé entre le gouvernement français et le souverain pontife et que je suis dans la communion de M. Joseph-Jacques Loison, évêque de Bayonne, nommé par le premier consul et institué par le pape. En juin 1804, Mgr Loison pouvait écrire à Portalis. L'union est aujourd'hui complète. Les nuances ont disparu. La religion fait chaque jour des conquêtes et les mœurs se rétablissent. Ce n'était pas un simple satisfexit que l'évêque de Bayonne se décernait à lui-même. L'union était réelle et le mérite lui en revenait incontestablement. Après avoir été net et ferme dans ses intentions et ses exigences, il avait su, dans son action, faire preuve de compréhension et de charité pastorale. Nous verrons la prochaine fois l'attitude de Mgr Loison à l'égard de l'empereur.